au quotidien avec Hélène Denis.
Bon mercredi 8 avril 2026, j'espère que vous allez bien, le soleil est présent, ça fait du bien ça au moral. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire du bien? C'est une rencontre avec une cinéaste, Andréline Beauparlant, qui nous offre un documentaire vraiment touchant, extrêmement sincère sur l'homme de sa vie, Robert Morin, cinéaste bien connu. Et Robert Morin a accepté de participer au film où il se livre comme jamais. Film intitulé « Mon amour, c'est pour le restant de mes jours ». Ça veut tout dire. Aussi, la chronique de Serge Bradet qui est là. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez, entre autres, nous parler du Chemin du Roi.
Oui, Chemin du Roi, mais dans un angle particulier, c'est qu'il y a toujours eu le Chemin du Roi qui reliait Montréal à Québec, des commerces qui s'est installés.
Ouais.
Parce que ça prenait pas une journée, deux, trois heures pour aller là, en carriole, tout ça. Alors, c'est ça, il y a des jeunes de la jeune génération qui ont rouvert des commerces tout le long du Chemin du Roi. Alors, je vais vous parler de ça. C'est vraiment intéressant. Puis aussi l'histoire du Chemin du Roi.
C'est agréable faire ce voyage-là.
Oui, oui. C'est long, par exemple.
Oui, mais en vacances, on a le
temps. Oui, oui. Puis il y a aussi un deuxième sujet, parcours et sauvetage d'un wagon de tramway.
Oui.
De la Ville de Québec.
Dans la revue Continuité, on en parle.
Dans la revue
hein?
Continuité, oui. Très, très bonne revue, numéro 188.
Merci beaucoup. À tout de suite. Elle est au bout du fil, comme d'habitude. Bien, comme d'habitude. Quand on la rejoint de ce temps-ci, c'est pas mal au bout du fil parce qu'elle est dans son garde-robe. Vous êtes retournée dans votre garde-robe?
De retour dans mon garde-robe, oui.
Isabelle Falardeau.
Bonjour.
Allô. Aujourd'hui, votre sujet sera la première influenceuse culinaire du Canada, je ne sais même pas si ça connaissait le mot influenceuse, cette dame.
Probablement pas, effectivement, mais c'est ce titre qui a attiré mon attention sur ce livre. En fait, il y en a qui le décrivent ça comme une BD, d'autres comme un roman graphique, mais c'est donc un roman, on va y aller avec un roman graphique ouais. Documentaire sur la vie de la plus grande, en fait, la première influenceuse culinaire du Canada, Jeanne Benoit. Et ben oui, c'est ça en fait. C'est l'article, c'est plus l'histoire de Jeanne Benoit que le roman graphique. Donc ça va vous donner une chance si vous n'avez pas la chance de lire ou si vous n'avez pas accès aux images du roman. Mais je vais vous en parler un peu là pour vous dire quand même de quoi ça a l'air visuellement.
Alors, on se demandait avant d'entrer en onde, Isabelle, est-ce qu'on dit Jeanne ou Jeanne? Et vous avez dit les deux, donc il n'y a pas de chicane dans ma cabane. Merci beaucoup, on se retrouve tantôt et on va ouvrir cette émission. Ah oui, il y aura aussi des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette dans la deuxième portion d'émission. Voici Charlotte Cardin à ses débuts. J'attends.
Tu occupes mes jours comme si tu existais. Oh, oh, oh mon amour. Déjà je t'imagine en plus que parfait. L'amour que je n'ai pas. J'attends. si tu existais. Oh, oh, oh mon amour, déjà je t'imagine en plus que parfait.
J'attends, chanté par Charlotte Cardin.
À la une du Devoir, il est question de la trêve entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis et l'Iran se sont accordés mardi pour un cessez-le-feu de 2 semaines, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump, qui menaçait de détruire la République islamique. Alors, voici ce que l'on sait de la trêve entre les deux pays qui devrait entamer vendredi des pourparlers au Pakistan, pays médiateur dans la guerre au Moyen-Orient. C'est dans Le Devoir et c'est un article de l'agence France-Presse. L'armée israélienne a confirmé mercredi qu'elle observait le cessez-le-feu décrété avec l'Iran après avoir mené pendant la nuit de nouvelles frappes contre les lanceurs de missiles iraniens, précisant qu'elle restait en état d'alerte élevée. En revanche, au Liban, la bataille continue, a affirmé l'armée israélienne. L'armée libanaise a appelé mercredi matin les déplacés à ne pas revenir dans le sud du pays où les frappes se poursuivent, Israël affirmant que le Liban n'est pas inclus dans la trêve entre l'Iran et les États-Unis. L'armée appelle les citoyens à attendre avant de revenir dans les villes et villages du sud, a-t-elle dit dans un communiqué. Un correspondant de l'agence France-Presse dans la région de Tyr a vu un petit nombre de personnes revenant en voiture vers des zones qu'ils avaient évacuées au début de la guerre. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur le sud du Liban ce matin, selon l'Agence nationale d'information, après avoir émis un nouvel ordre d'évacuation pour la région de Tyr. Le Hezbollah pro-iranien, pour sa part, n'a plus revendiqué d'attaque contre Israël depuis une heure locale environ, mardi 22h GMT, alors qu'un cessez-le-feu de 2 semaines est entré en vigueur entre les États-Unis et l'Iran. Israël a affirmé que la trêve ne concernait pas le Liban. Et maintenant, à la une de la presse plus, est née sous pression. Service d'aide à domicile, une agence de placement de personnel qui a remporté un récent appel d'offres dans la Naudière, est dans le viseur de l'Autorité des marchés publics. Les méthodes de recrutement d'une agence de placement de personnel pour des soins à domicile pour aînés sont sous la loupe de l'Autorité des marchés publics, l'AMP, groupe Santé IPA, dont les propriétaires travaillaient pour une agence soupçonnée d'avoir participé à un stratagème de collusion en 2023. Mène une campagne de maraudage agressive dans la Naudière après avoir remporté un nouvel appel d'offres. Pour Suzanne Daigneault, la mauvaise nouvelle est arrivée brusquement au début de février. L'aide à domicile qui l'aidait à prendre son bain 3 fois par semaine l'a averti qu'il ne viendrait plus après 5 ans de loyaux services. Son employeur, la coopérative en soutien à domicile de la MRC de l'Assomption, établie dans la région depuis plus de 15 ans, a perdu au début de février un important appel d'offres lancé par le 6 de la Naudière. Éric, l'aide à domicile de Mme Daigneault, a été mise à pied. « Ça me fait bien de la peine. Il prenait soin de moi depuis longtemps. Il connaissait toutes mes aises », s'attriste la dame de 86 ans. C'est l'agence de placement de personnel Groupe Santé IPA qui est arrivée au premier rang de l'appel d'offres dans sa MRC. Le devis de l'appel d'offres précisait que les agences gagnantes devaient être en mesure de répondre à au moins 60 % des demandes de services mensuels du CIS de la Naudière, et ce, dès l'entrée en vigueur du contrat au début de février. Dans les jours suivant l'adjudication, Groupe Santé IPA se lançait dans une campagne sur les réseaux sociaux afin de recruter des aides à domicile. Manon, une employée d'une des coopératives d'aide à domicile qui a été écartée du marché, qui a demandé de taire son nom de famille par crainte de répercussions sur sa carrière, affirme que Groupe Santé IPA a tenté de la recruter en appelant chez une bénéficiaire âgée pendant qu'elle y travaillait, en demandant à la dame de lui passer le téléphone pour lui faire une offre d'embauche. « J'ai répondu, je vais y penser, mais c'est sûr, je n'ai pas rappelé parce que notre horaire, c'est confidentiel. Ce n'est pas correct qu'ils aient essayé de m'appeler au travail. » Et puis, à la une du Journal de Montréal, une des photos qui coupe le souffle, des images à couper le souffle, des photos spectaculaires prises par les astronautes d'Artemis 2 en page 2, 3, 18, 19 et 63 du Journal de Montréal. Magique, exceptionnelle, spectaculaire, émouvante des scientifiques québécois ne tarissent pas d'éloges à l'égard des images capturées par les astronautes de la mission Artemis 2. Lors de leur survol de la Lune, juste d'être capable de voir le croisement de la Terre se coucher sur la Lune, c'est une image tout à fait exceptionnelle, tout comme celle de l'éclipse solaire, a commenté l'astrophysicien Olivier Hernandez, directeur du Planétarium de Montréal. C'est tout à fait spectaculaire. Hier, la NASA a publié une partie des photos grandioses qui ont pu être prises alors que la capsule Orion battait le record de la plus grande distance parcourue depuis la Terre.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée?
Julien Clerc, sa chanson « Utile ».
Oui, et cette chronique sera fort utile, j'en suis convaincue, avec vous, Isabelle.
Ben oui, alors donc c'est cet article et là je vous avertis, je vais dire Jeanne Benoît parce que c'est trop difficile pour moi, sinon c'est ce que ma mère et ma grand-mère disaient.
Allez-y donc, avec la tradition.
On parle de Jeanne Benoît, la première influenceuse culinaire du Canada. C'est cet article d'Isabelle Morin que j'ai trouvé dans la presse le 5 avril dernier, mais on en a beaucoup parlé. C'est un roman graphique tout simplement intitulé Jeanne Benoît qui est signé Megan Durnford. Elle a écrit d'autres livres en anglais et elle est aussi recherchiste, selon l'article. Et donc, c'est ça, ça lui a pris 6 ans de recherche pour retracer la vie et l'héritage de Jeanne Benoît. Et c'est ce qu'on appelle un roman graphique à saveur culinaire. Donc, moi, je suis allée quand même voir, j'étais curieuse, j'ai utilisé l'option feuilleter ce livre sur le site Les Libraires. Et donc, on voit vraiment, c'est un peu comme une bande dessinée, donc avec des cases de différentes tailles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on mélange le dessin et les photos d'époque. Donc, il y a certaines cases qui sont vraiment des photos d'époque plutôt que des dessins. C'est un beau mélange, oui, ouais. C'est très intéressant. Et donc, on relate la vie de Jeanne Benoît. Et donc, c'est vraiment intéressant, je ne sais pas, à part le fait qu'elle a écrit l'encyclopédie de la cuisine qui était présente dans la cuisine de la plupart de nos mères, est-ce que vous connaissez un peu ce qu'elle faisait?
Oui, bien, il me semble que je l'ai déjà vue à la télévision, mais peut-être que ça se passe dans mes rêves, dans ma tête. Là.
Non, elle faisait la télé.
Oui,
non,
mais est-ce que j'étais trop jeune pour ça? Mais ma mère a des livres de Jeanne Benoît, c'est ça, c'est sûr.
Oui.
Dans les années 60.
Elle roulait ses airs, me semble.
Jeanne Benoît.
Moi, je vous ai déjà donné au moins une recette de Jeanne Benoît au micro-ondes, là, la recette de sucre à la crème.
Oui.
J'avais la recette de sucre à la crème de Sœur Angèle, mais j'avais la recette de Jeanne Benoît au micro-ondes.
Je pense que c'est elle hein, qui a mis de l'avant l'utilisation du micro-ondes avec un livre de recettes consacré à ça.
Le premier livre de recettes sur le micro-ondes, au micro-ondes pour le Québec, en tout cas, c'est certain. Et donc, c'est ça. Elle était une véritable star à son époque. En anglais comme en français, moi, je ne savais pas. Elle faisait aussi de la télé et de la radio en anglais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs très connus, mais j'estime qu'elle a été la première. Ça, c'est l'autrice Megan Dunford qui dit ça. Megan Dunford. Et donc, les images, c'est l'illustrateur Stéphane Lemardelet qui les signe. Dans les années 1930, avant même que les femmes obtiennent le droit de vote au Québec, Jeanne Benoît dirige déjà deux entreprises. Plus tard, sa notoriété dépasse largement les frontières du Québec. Elle était parfaitement bilingue. Mais j'ai regardé des vidéos d'archives et puis elle avait le même petit accent avec elle roulait ses R, hein, donc c'est très sympathique en anglais aussi. Donc apparemment qu'elle avait appris l'anglais grâce à une méthode mise au point par son père. Elle a vraiment mené une carrière d'envergure à travers le pays à partir de 1952, notamment sur les ondes de CBC Toronto. C'était une époque où la majorité des femmes se destinent à une vie domestique, mais elle rêvait plus grand. Elle n'avait pas froid aux yeux. Elle a toujours su qu'elle voulait faire autre chose. C'est quand même intéressant parce qu'elle ne voulait pas une vie domestique, mais elle a quand même été une énorme présence pour toutes celles qui, elles, ont opté pour cette fameuse vie domestique au centre de laquelle vit est la cuisine. Mais elle a toujours... c'est vraiment passionnant de voir qu'elle avait l'impression de pouvoir tout accomplir. Elle est née dans une famille bourgeoise, née en 1904. Donc, son père était banquier, sa mère était mère au foyer. Et elle a hérité de son père un sens des affaires et un intérêt pour les arts de la table. Mais quand elle était adolescente, elle n'avait pas l'intention de faire ce qu'elle a finalement fait. Elle était plutôt... elle rêvait d'être actrice. Au grand désarroi de sa mère qui trouvait que c'était une vocation peu recommandable. Mais c'est quand même ça qui l'a poussée à partir vers la France. Donc, elle était attirée par la vie parisienne, mais aussi la cuisine et la scène. Ça s'est quand même dissipé rapidement, son ambition de devenir comédienne. Elle a plutôt découvert une passion pour la gastronomie et c'est là qu'elle l'a approfondie auprès du scientifique et gastronome Édouard de Pomiane. Et c'est un enseignement qui était fondé sur la compréhension des réactions des aliments et ça a marqué durablement sa façon à Jeanne Benoît d'aborder la cuisine. Et donc, de retour au pays, elle a fondé une école culinaire. Elle a formé plus de 8000 élèves. Mmh. Ensuite, elle a ouvert une cantine, le Salad Bar, malheureusement qui a été détruit par un incendie en 1942.
Le Salad Bar et non le bar à salade.
Non. Parce que ça, c'est pas dans celui-ci, mais que c'était le premier restaurant végétarien au Québec.
Ah oui.
Donc, elle a innové dans plein de domaines. Donc, en pleine guerre, alors que le rationnement du papier rend la publication de livres de recettes difficile, elle s'est tournée vers la radio pour assurer ses revenus. Parce que déjà, à l'époque, elle participait là, à la revue moderne, Femina. Elle écrivait aussi. Mais donc, pendant la guerre, effectivement, là, la radio, c'était peut-être un peu plus facile. À Femina, elle avait eu un courrier d'électrice et c'est rapidement passé d'une centaine à près de 2000 lettres par mois. Donc, elle recevait vraiment des milliers de lettres de lectrices par mois. Elle a aussi donné des conférences, des cours spectacles devant des
spectacles.
Salles comblées. Là, on dit...
Ah, des cours spectacles.
Cours spectacles. Cours CURS, Trait d'Union Spectacle, donc entre un peu comme ça, c'est une conférence. En fait, hein, c'est entre un cours et un spectacle.
Oui, oui.
Et on dit notamment au Forum de Montréal. Donc là, c'était quand même beaucoup de gens. Là.
Je comprends. Mais
elle traduisait elle-même ses livres en anglais. Et ça a d'ailleurs contribué à sa renommée pan-canadienne. Pas le fait qu'elle les traduise elle-même, mais que ses livres soient traduits en anglais. Elle disait, on mange aussi avec nos yeux.
Mmh,
et donc, pour elle, les plats devaient être aussi beaux que bons. Elle a introduit des pratiques novatrices, comme le micro-ondes dont on parlait, ou l'usage d'alcool en cuisine, qui était à contre-courant des enseignements plus conservateurs de l'époque. On lui doit aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une ouverture aux cuisines du monde, la cuisine chinoise, italienne, mexicaine. Et c'est une curiosité qu'elle a cultivée toute sa vie. Évidemment, son œuvre phare, c'est l'Encyclopédie de la cuisine canadienne qui a été publiée pour la première fois en 1963. Ça faisait déjà 30 ans d'écriture, 30 ans qu'elle écrivait. Et ça a vraiment marqué durablement nos foyers. C'est un guide de 1056 pages.
Qui est toujours en vente.
Toujours en vente. Ça a connu un succès immédiat, mais effectivement, il y a eu plusieurs réimpressions, rééditions. On dit ici près de 2 millions d'exemplaires vendus, mais je ne sais pas ça, c'est si à la première édition, parce que d'après moi, il y en a eu plus que ça après. On l'offrait en cadeau de noces carrément. Donc,
ouais.
Ça l'a sûrement aidé à trôner là, dans la majorité des cuisines québécoises.
C'est un beau cadeau, ça.
Exactement. Le nom de Benoît, c'était pas son nom de jeune fille, c'était le nom de son mari.
Ah bon?
Mais elle s'est séparée de lui et elle a élevé sa fille seule. Mais il s'appelait Bernard Benoît.
Elle a gardé le nom.
Et en ça aussi, elle était différente des femmes de son époque puisqu'il était de 13 ans son cadet. Donc, 13 ans plus jeune qu'elle.
Joanne aimait les petits jeunes.
Et oui, c'est ça. En conclusion, elle dit, Megan Dunford, elle dit, je ne crois pas qu'elle avait de mission d'émancipation sociale. Elle a simplement fait cette carrière-là parce qu'elle en avait envie. Elle est décédée, Jeanne Benoît, en 1987. Elle a laissé derrière elle un héritage considérable. Elle était indépendante, déterminée, tournée vers la découverte et la transmission. Et elle cherchait moins à imposer qu'à susciter l'élan. C'est ça qui fait de la différence, je pense. Donc, l'élan d'essayer, de comprendre et surtout de goûter. C'est une envie qu'elle a transmise à des générations de cuisiniers. Et moi, j'aimerais conclure avec un petit quiz, puisque j'entends sur le sujet de Serge, en parlant d'histoire un peu aujourd'hui. Quand je cherchais des vidéos, justement, de Jeanne Benoît, je suis tombée sur... une question. Donc, en 1968, que conseillait Jeanne Benoît aux ménagères pour rendre le rhum heureux? Et là, j'ai trois choix de réponse.
OK, on vous écoute.
A, lui apporter tous les matins son journal avec son déjeuner. B, lui couper sa viande en petits morceaux pour ne pas l'épuiser après sa journée de travail. Excusez-moi. Et C, lui confectionner des fudges et des bonbons qu'il pourrait manger avec sa secrétaire.
Oh boy.
Aucune de ces réponses.
La 1, peut-être, la 1.
Mathieu vote pour la 3.
C'est la 3 et j'ai pas eu le temps d'envoyer l'extrait, mais je l'ai regardé tout à l'heure. Donc, c'est ça, c'est lui confectionner des fudges et des bonbons qu'il pourrait manger avec sa secrétaire. En fait, elle a dit, vous aimez manger, votre homme aime manger, faites-lui des fudges et des bonbons et qu'il pourrait apporter son bureau et manger même avec sa secrétaire.
Avec sa secrétaire.
Mais il y avait le petit sous-entendu.
Oui,
je comprends.
Mais même si c'est avec ce secrétaire, c'est correct.
Ouais, elle était quand même pince sans rire et une femme totalement libre également.
Vraiment, oui.
Jeanne Benoît ou Jeanne Benoît parce que le prénom s'écrit J-E-H-A-N-E. Et vous parliez donc de cette femme admirable et de ce roman graphique qui est disponible aux éditions La Presse depuis quelques jours. Maintenant, ça se peut que j'aie une entrevue, Isabelle, avec Megan Dunford. C'est à suivre.
Ça serait bien.
Je vous en donnerai des nouvelles.
Super.
Merci.
Il y a bien des façons de le préparer. Et des fraises et de la crème, ben, tout le monde connaît ça, il n'y a rien à dire. Mais il y a aussi bien des façons très simples et très intéressantes, parce que la fraise est aussi vieille que le monde, si vous voulez. Ça n'a pas toujours été des grosses fraises cultivées comme celle-ci. Mais les petites fraises sauvages, on en retrouve même avant le temps de la Bible, on parle des fraises sauvages, ou des petits fruits rouges sauvages, qui étaient de la fraise. Eh bien, la première recette que je vais vous faire, elle est persane. Elle est très, très vieille, mais vous allez voir, elle est très simple. Alors, elle s'aromatise au sucre, qui était aussi du sucre à l'époque, mais qu'on devait râper. et à l'eau de rose, parce que presque toutes les choses persanes ont des fleurs ou des arômes de fleurs. Là, vous allez dire l'eau de rose dans les fraises. Eh bien, l'eau de rose et la fraise, ce sont deux amis extraordinaires. Ça donne une de ces saveurs fines. Et si vous ne voulez pas que ça goûte, que vous sachiez, que quelqu'un dit, si vous voulez, j'ai mis de l'eau de rose dans mes fraises, ou les fraises goûtent l'eau de rose. N'en mettez que quelques gouttes, ça suffira pour parfumer et ça fait toute une différence. L'autre grand ami, ça c'est l'amant de la fraise, l'eau de rose, mais le grand ami de la fraise, c'est le sucre vanillé. Et voilà une chose que les Européens connaissent bien et que nous préoccupons presque jamais. On achète de l'essence de vanille. Je n'ai rien contre l'essence de vanille, mais le sucre vanillé est beaucoup plus économique et facile à préparer. Et il s'agit d'abord d'avoir une gousse de vanille comme ceci que l'on achète tout ensemble dans un petit cachet. Quelquefois, elle n'est pas dans un chose de verre. Elle peut être même simplement enveloppée ou comme ceci. J'en ai vu comme ceci avec rien dessus. Mais ça, je ne vous recommande pas d'acheter celle-là parce qu'elles sont légèrement poussiéreuses. Et ça sent très bon. Quand vous voulez faire du sucre vanillé, vous coupez un morceau, je vais en couper un morceau de cette longueur, par exemple, de la gousse, et ensuite, vous l'ouvrez sur le long avec votre couteau. Vous faites une petite incision dessus.
Mais c'est encore actuel. Puis on a envie de découvrir hein, le mélange eau de rose et fraises ou sucre vanillé, n'est-ce pas, Isabelle?
Oui. Puis on voit encore son intérêt pour la cuisine exotique de... Donc, pas québécoise, mais au-delà des frontières, là, la cuisine persane ici.
Oui, et on remarque sa curiosité, parce que ça prend beaucoup de curiosité aussi quand on veut élaborer de bons plats, qu'on n'ait pas peur d'essayer des choses et d'improviser. Ah oui, je vais essayer avec telle épice, telle fine herbe. Et ben, ça nous donne vraiment envie de réécouter Joanne Benoît et aussi de feuilleter l'Encyclopédie de la cuisine canadienne. Il y a plein de trucs là-dedans et plein de choses qui concernent cette dame assez formidable. Merci pour ce sujet, Isabelle Falardeau. Vous allez rester avec nous, Isabelle?
Oui.
OK. Et Serge Bradet, vous allez nous amener sur le chemin du roi dans quelques secondes. Mm-hmm. Et vous allez nous parler d'un... Est-ce qu'on dit wagon ou wagon?
Un wagon.
Wagon, OK. Est-ce qu'on dit Jean-Benoît ou Jean-Benoît?
Wagon.
Wagon, wagon. OK. Mon père disait wagon. OK,
oh, attends. Oui, j'ai entendu, oui.
À plus.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Il n'est plus du roi, le chemin du roi. La mer joue de la trompette, les galets jouent du clairon. On attend une corvette au creux de l'anse au foulant. Mais voilà que se dessine un tout autre bâtiment. Ma foi, c'est la grande Hermine que nous ramène le vent. Par le chemin du roi, le chemin du roi. C'est le vent mélancolique qui vient après tant d'années, mêler un peu d'Atlantique et de Méditerranée. Et la vague qui l'emporte, d'où la mer s'est arrêtée, n'est pas une vague forte, c'est une forte marée. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Les hommes ont mis leurs cravates, ma mère a mis son chapeau. Le chemin du roi s'exalte, même les poteaux sont beaux. On ouvre les forteresses, on ouvre les sentiments. Les trois rivières renversent, capitaine, il était temps. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Tout ce qui grouille et scribouille depuis tant et tant d'années, d'un seul bon coup se dérouille pour se joindre à la marée. Et quand il monte à la vigie, quand il passe à l'abordage, ce n'est plus un équipage, mais tout un peuple qui suit. Par le chemin du roi, le chemin du roi. D'un océan jusqu'à l'autre, c'est la houle et le remous. Le vent qui longe la côte vient de tourner bout à bout. Et plus claque la vaillance, plus retentissent les mots. Non, le général de France n'ira pas à Waterloo. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Et se réveille la sève, et s'enracine l'idée que plus le chemin s'achève et qu'au moins il ne finit. Moi qui n'ai jamais eu l'âme d'un soldat de régiment, hier à la place d'armes, j'ai crié comme un sergent, mon général. Et les plus du roi.
Ah, Jean-Pierre Ferland, je ne connaissais pas cette chanson-là.
Moi non plus, non.
Le chemin du roi, parce que vous nous parlez justement de ce chemin. Redécouvrir le chemin du roi, c'est un texte de Véronique Leduc et de Geneviève Vizina, mon plaisir, qui fait partie du magazine Continuité, le plus récent numéro Patrimoine et inondation,
188.
Vague de risque. D'ailleurs, j'avais eu une entrevue avec la rédactrice en chef, Caroline Fortin. Redécouvrir le chemin du roi, c'est à vous, cher Serge.
Oui, alors le chemin du roi, il est parsemé d'édifices historiques, mais aussi de commerces modernes à découvrir. Alors, on nous propose une escapade entre passé et présent. Avant nous, de très nombreux voyageurs ont emprunté cette route qui n'a pas été simple à construire. On imagine, à l'époque. C'était à l'époque de la Nouvelle-France, en 1706, qu'on prend la décision de relier quelques rares tronçons déjà existants dans les seigneuries et de construire une route qui longera le fleuve, traversant les endroits où se trouvent la majorité des habitations et des commerces. L'idée est d'offrir une autre solution que le transport par bateau, qui rencontre des obstacles tels que les tempêtes et, évidemment, les périodes de gel et dégel dans les eaux fluviales. Ça bloquait la circulation, 2-3 mois, j'imagine, comme il faut. Là. Les travaux débutent en 1731 et sont exécutés en grande partie grâce aux corvées du roi, qui imposent à chaque seigneurie d'être responsable de sa partie du chemin. 6 ans plus tard, en 1737, le chemin du roi est prêt. Ça s'est fait quand même assez rapidement, compte tenu des moyens qu'on avait à l'époque. Il fait 7,4 mètres de largeur et s'étire sur 280 kilomètres, passant à travers 37 seigneuries entre Montréal et Québec. Il sera pendant près d'un siècle la plus longue route aménagée en Amérique du Nord. Le chemin du roi est dès lors utilisé pour le transport du courrier et des voyageurs qui le parcourent en calèche ou en carriole d'hiver. Tout en profitant de la trentaine de relais qui jalonnent pour manger et se reposer. D'ailleurs, en parcourant le chemin du roi, Il suffit d'ouvrir l'œil pour remarquer le passé agricole de la province et les marques que l'histoire a laissées un peu partout entre Montréal et Québec. Bâtiments de fermes, terres agricoles, églises, maisons de pierre, moulins et noyaux villageois qui sont encore visibles tout au long de la route. Alors, les commerçants, en s'installant sur la première voie pavée de la Nouvelle-France, rendent une sorte d'hommage à l'histoire de ce chemin illustre. C'est ce qu'ont fait, par exemple, Véronique Ménard et Catherine Laporte en ouvrant, en décembre 2024, un café au bord du chemin du roi à Berthierville. C'est un concours de circonstances qui a mené ces deux belles sœurs à ouvrir le Music Art Café. Les proprios avaient toujours imaginé qu'un café pourrait être installé dans ce bâtiment, et nous, on avait envie de faire partie du centre-ville que la ville souhaite revitaliser, raconte Catherine Laporte entre deux clients. Même son cloche à 1 heure de là, à Trois-Rivières, plus précisément au temps d'une pinte, qui redonne vie depuis 2014 à un tronçon de rue qui en avait besoin. C'était risqué de s'installer ici à l'époque, mais il fallait amener un souffle de renouveau dans la rue et aussi faire une place à la bière québécoise dans le coin, constate Sébastien Bourassa, l'un des 4 actionnaires de la microbrasserie qui a su établir sa réputation dans la région et au-delà. Après plusieurs commerces fondés à Trois-Rivières, Champlain, Batiscan et Saint-Anne-de-la-Pérade, le restaurant Miranelle à Deschambault. Oui, fait lui aussi partie de ceux qui donnent un nouveau souffle au chemin du roi. Ouvrir un restaurant gastronomique dans un village de quelques 2000 habitants, il fallait oser. Mais Mathieu James et Marina Marco semblent avoir réussi leur pari. Pour nous, c'était la possibilité de faire ce qu'on voulait, comme on le voulait, explique le chef qui travaille chacune de ses assiettes comme une pâtisserie fine. Ça doit être beau à voir.
Ça donne envie, hein,
d'y aller. Oui. On voulait aussi s'installer en région pour être près des producteurs et éviter de se perdre parmi l'offre des restaurants de Québec ou de Montréal. Autour du restaurant, le village de Deschambault est très vivant. On peut y prendre un café ou un apéro à la Dinette du Cap, déguster une glace chez Julie Vachon Chocolat, qui ouvre aussi une crèmerie durant la belle saison, se procurer du pain à la boulangerie Le Soleil Levain, faire des emplettes au magasin Général Paris, puis repartir avec une pièce de la talentueuse céramiste Marie-Ève Dompierre qui vient de s'installer dans le coin. Alors que le soleil se couche, nous approchons tranquillement de Cap-Rouge, où on retrouve la Pelleterie. C'est un casse-croûte du coin installé sous le Tracel, un magnifique viaduc ferroviaire de plus d'un kilomètre, achevé en 1908 et toujours en service. La Pelleterie est située tout près de la belle marina de Cap-Rouge, qui abrite l'été le quai 1635, un restaurant où on sert de délicieuses guédilles sur le bord de l'eau. Alors, entre histoire et renouveau, il est parfois bon de prendre le chemin le plus long. Alors, si vous voulez faire le chemin du roi cet été, il serait bon, je pense, de prendre cet article-là et de noter tous les endroits, puis de s'arrêter. Ça fait des pauses. Alors,
oui, le temps d'une pinte.
Oui, oui. Je sais pas combien de temps ça va prendre la journée au complet, là, peut-être de 9h à 4, 5, 6h.
Oh, on se met aucune pression.
Ben non, c'est ça, on fait ça tranquillement.
Mathieu me disait qu'il était né sur le chemin du roi.
Ah! Chanceux!
Impressionnant, hein?
Oui.
Et vous continuez, Serge. Cette fois, vous nous parlez d'un sauvetage.
Mm-hmm. Oui. Parcours et sauvetage d'un wagon de tramway. D'un article de Stéphane Doyon, toujours dans la revue Continuité numéro 188. Alors, c'est un wagon de tramway du 19e siècle, transformé en casse-croûte, qui vient de retrouver ses airs de jeunesse. Tout un destin pour un wagon de tramway hippomobile construit en bois vers 1865. Après avoir roulé dans les rues de Québec pendant 3 décennies, il devient kiosque de jardin, puis comptoir à hot-dog au 20e siècle. Depuis 2024, on peut le voir sous cette dernière forme dans l'exposition permanente « Le Québec, autrement dit, du Musée de la civilisation du Québec ». C'est en 2018 que le musée demande à l'équipe du Centre de conservation du Québec, du ministère de la Culture et des Communications, de se pencher sur cet objet peu commun. Documenter son histoire et lui offrir une cure de jouvence n'a pas été de tout repos, on s'imagine. Bienvenue à bord du tram numéro 7 de la Québec Street Railway Company. Nom bien anglais pour une compagnie dans le Québec français, dans la capitale de Québec. Les années 1860, marquent le début des transports collectifs sur rail à Québec. C'est l'époque où les grandes villes se dotent d'un réseau de métro ou de tramway afin d'accommoder leur population croissante. Québec, qui connaît déjà les omnibus à chevaux, n'échappe pas à cette tendance et la Québec Street Railway Company, c'est le fun à prononcer, est créée en 1863. Les travaux commencent l'année suivante par l'installation de rails de bois dans les rues de la Basse-Ville. Et en 1865, entrent en scène les premiers tramways tirés par des chevaux de la QSR.
Faites-vous plaisir.
Oui, Québec Street Railway Company. Pardon. Fabriqué à Montréal, notre wagon circule sur la ligne 7 qui dessert les rues Saint-Joseph et Saint-Vallier pour relier les marchés Champlain et Saint-Roch, actuel secteur de la traverse Québec-Lévis et de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Les petits chars hippomobiles sillonnent pendant plus de 30 ans les rues de la ville avant d'être remplacés par le tramway électrique en 1897. À ce moment, un industriel de la région de Kamouraska, Charles-Alfred Roy, dit Desjardins, achète la flotte désuète de la QSR pour récupérer le fer de ses roues. Les wagons, ainsi dépouillés de leurs bogies et de leur plateforme d'accès, sont alors donnés à des proches pour servir, par exemple, de kiosque de jardin. Celui de la ligne 7 connaît ce destin, puis il devient un petit casse-croûte au milieu du 20e siècle à Saint-André de Kamouraska. On doit à un couple de collectionneurs, Annie et Pierre Quentin, la redécouverte et la sauvegarde de ce rare témoin des débuts de l'époque des tramways de Québec. Ce sont eux qui l'ont acquis dans les années 1980 et offert au musée en 2006. Ça leur a pris du temps pour le rénover. On y aurait servi, selon eux, des hot-dogs, des barres chocolatées et du café. C'est un sauvage in extremis. Hein. Après plusieurs décennies passées à l'extérieur, le wagon est dans un état déplorable, ravagé par la pourriture et affaissé. Mais il s'avère suffisamment sain pour être traité par l'équipe du centre de conservation.
Il y avait de l'espoir.
Oui. Avant même que l'objet quitte la réserve du musée, ses fenêtres sont démontées quand plusieurs panneaux de verre sont déjà cassés en raison de la dégradation de leur châssis. Quant aux surfaces peintes présentant de l'écaillage, elles sont recouvertes d'une protection temporaire, soit du papier japon collé avec un adhésif réversible. Un support temporaire est aussi ajouté afin de soutenir la toiture affaissée. Le wagon a ensuite été congelé à moins 20 degrés centigrades pendant 10 jours dans une remorque frigorifique pour éradiquer tous les insectes vivants. C'est un traitement qu'on fait là, quand vous avez des punaises, entre autres, des coquerelles. Toi, vous mettez toutes les choses dans un entrepôt frigorifié, puis ça meurt.
Ouais.
Après son arrivée dans les locaux du camp de conservation du Québec, son traitement se poursuit, à commencer par l'enlèvement du papier japon, la consolidation des finis peints et leur nettoyage. Autant que possible, les inscriptions, les éléments de décor sont mis en valeur, tandis que plusieurs zones modifiées au fil du temps sont retouchées pour préserver l'apparence de la dernière époque active du wagon, alors qu'il servait de casse-croûte. Le traitement de la structure débute quant à lui par le réalignement des composantes à l'aide de supports ajustables, de gabarits et de serre-joints. Chaque montant détérioré est alors consolidé avec des résines époxydiques et du bois neuf pour redonner sa solidité à la structure tout en conservant le maximum de bois d'origine. Tous les châssis de fenêtres sont également consolidés et les panneaux de verre manquants sont remplacés par du verre d'époque. Une fenêtre a dû être entièrement refaite en raison de la pourriture avancée de son châssis. Cette fenêtre est mise sur penture d'après les traces et fermetures observées afin de rappeler le guichet aménagé lorsque le wagon servait de casse-croûte. Vous pouvez payer. L'ensemble du traitement a permis de nettoyer, de stabiliser et de documenter ce vestige d'une époque révolue, l'un des plus anciens wagons de tramway conservés au Québec, tout en préservant l'intégrité physique et historique de ces matériaux. On peut dire mission accomplie.
Je comprends. Mm-hmm. Superbe travail. Félicitations aux restaurateurs. Hein,
oui.
Ils s'appellent Marilyn Beauregard et Stéphane Doyon. Et c'est bien parce qu'on peut aller visiter ce tramway au Musée de la civilisation
oui.
du Québec.
Mm-hmm.
Merci Serge Bradet.
Plaisir.
Et merci Isabelle Falardeau.
Merci.
À la prochaine.
Qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur. Il se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perdre son cœur. Se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-tu quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le trou de son chest que lui avait laissé. Mais moi je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tout est alright man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, mais je l'ai mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir. sais-tu vu qu'on dise au juste? On a tombé en amour encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus, mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue.
On rejoint Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
La Bibliothèque du Parlement retire des documents uniquement en anglais.
C'est un professeur, un chercheur en histoire qui faisait des recherches à propos des premiers sénateurs franco-ontariens. Le chercheur s'appelle Yves Y. Pelletier. Il s'est rendu compte que le Sénat, entre 1874 et 1896, avait transcrit ses débats seulement en anglais. Ça respecte même pas la loi constitutionnelle de 1867. Là. Pas besoin d'attendre des lois modernes pour dire que ça ne respectait pas ce qu'on avait décidé. Il a donc déposé une plainte au commissariat aux langues officielles. Ces documents-là sont considérés comme une communication publique parce qu'ils étaient publiés sur le site de la Bibliothèque du Parlement. Donc, ils doivent être, selon la loi, dans les deux langues. Au lieu de penser de les traduire, on a retiré les documents du site. C'est la bibliothèque qui a pris cette décision-là. Je vous souligne qu'on peut y accéder quand même, il faut juste en faire la demande, mais ça fait que ce n'est plus des documents nécessairement publics. C'est la deuxième fois qu'une institution fédérale prend une décision de cette sorte-là. La première fois, c'était la Cour suprême à qui le commissaire aux langues officielles avait fait remarquer que les 6000 jugements rendus avant 1970 et qui sont majoritairement en anglais devraient être traduits pour respecter la loi aussi. La Cour suprême a décidé de retirer des documents aussi pour respecter la loi, mais elle a quand même pris des démarches. Ils sont en train de traduire 24 jugements qui ont été jugés plus importants pour la jurisprudence. La bibliothèque, elle, n'a pas offert de traduire des documents parce qu'elle indique que, c'est la réponse qu'ils nous ont donnée, que c'est le Sénat qui a le pouvoir de le faire. Parce que ces documents, la bibliothèque est seulement le dépositaire des archives. Donc, c'était au Sénat de prendre la décision. Le Sénat ne nous a pas répondu sur cette question-là. Ce que nous dit une professeure en droit de l'Université d'Ottawa, Anne Lévesque, c'est que ce qu'on peut appeler, on peut appeler ce genre de décision-là du nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'au lieu de donner le même droit à tout le monde, parce que c'est trop inconvénient ou parce que ça peut coûter trop cher, on enlève le droit à la majorité pour respecter l'esprit de la loi. Celui qui a fait la plainte, Yves Pelletier, a déposé une nouvelle plainte, cette fois-ci à propos du bilinguisme au Sénat et du Parlement. Donc, on va attendre de voir les résultats de cette enquête-là.
Ah bon, je connaissais Yves P. Pelletier, mais pas Yves Y. Pelletier.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai mentionné,
oui, faut faire la distinction. Une recherche sur le sentiment d'aliénation entre les régions rurales et urbaines de la Nouvelle-Écosse, c'est dans le Courrier.
Oui, dans le cadre d'une récente tournée provinciale, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse a constaté qu'il y a un sentiment d'aliénation au sein de la communauté francophone de la province. Ce qu'on va dire par là, c'est qu'il y a les gens des milieux ruraux, des milieux urbains, les nouveaux arrivants et les membres de la communauté acadienne de plus longue date ne semblent pas nécessairement faire partie d'un tout, de faire partie de la même communauté francophone. Il y a un groupe de chercheurs de l'Université Sainte-Anne qui veut mieux comprendre ce qui se passe. Donc, comment on peut améliorer les choses et, effectivement, voir ce qu'on peut, à quoi pourrait ressembler l'Acadie de la Nouvelle-Écosse dans 10 ou 15 ans. On va le faire en s'inspirant des consultations qui ont déjà été effectuées, là, qui ont permis de dégager ce premier constat-là. Mais aussi, il va y avoir d'autres, il y a un sondage qui est déjà disponible, il va y avoir d'autres consultations au cours de l'été. Ce qu'on espère, c'est d'avoir un rapport préliminaire à cet automne. Puis, à partir de ce rapport-là, il y aura un rassemblement d'une centaine de personnes pour traiter de la question.
Dans Le goût de vivre, il est question de la disponibilité des sages-femmes francophones qui restent fragiles.
Bon, on souligne que les sages-femmes francophones dans cette région-là, la région de Penetanguishene, qui est au nord de Toronto, sur le bord de la baie Georgienne et du lac Huron, il y a une offre de services en français, il y a des sages-femmes francophones, mais l'offre est fragile. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, bien, il n'y a plus de formation pour des sages-femmes en français en Ontario depuis que l'Université Laurentienne a coupé ce programme-là en 2021 dans sa crise financière. Ce sont aussi des conditions de travail qui sont difficiles parce que il faut être prêt à toute heure du jour ou de la nuit au cas où une de nos patientes est prête à accoucher. Puis on dit aussi que les conditions de travail et le salaire en Ontario seraient plus bas que dans d'autres provinces du Canada. Il y a une sage-femme à qui le Goudy va parler qui, elle, voit plusieurs de ses collègues quitter le métier ou partir dans une autre province pour des meilleures conditions. Puis les sages-femmes de l'Ontario se sont même rendues jusqu'au tribunal des droits de la personne pour faire reconnaître qu'elles ne sont pas suffisamment payées. Ça a été reconnu par la Cour, mais les choses n'ont toujours pas changé. Le gouvernement ne bouge pas. Pourtant, c'est un service apprécié. Coucher dans sa langue, c'est presque un service essentiel parce que c'est un soin de santé et on sait que être servi en santé dans sa langue pour des services de santé, c'est important. Il y a des parents aussi qui se rendent compte qu'ils veulent utiliser plus de français, surtout à l'approche de la naissance d'un enfant. Puis parfois, d'avoir une sage-femme en français, bien, ça permet de se remettre dans le bain puis de reparler en français. Donc, le besoin est là. Ce qu'on espère, c'est qu'il va pouvoir rester et dans cette région-là et dans d'autres régions de l'Ontario aussi.
Par ailleurs, dans la source, un titre qui se lit comme suit, « Vers des soins en français pour les personnes trans, non-binaires et bispirituelles dans l'Ouest canadien ».
Après qu'il soit rendu compte qu'il y avait un écart entre les connaissances sur la pluralité des genres des prestataires de services de santé en anglais comparé à ceux des services en français, le comité franco-queer de l'Ouest a créé la formation « Transéquité ». Cette formation-là, bien, c'est une formation volontaire à travers laquelle les prestataires de services francophones apprennent le vocabulaire et acquièrent des connaissances nécessaires pour rendre leur pratique inclusive pour les différentes identités de genre. Comme éviter des mots genrés, là, le féminin et masculin, quand c'est adéquat. Le comité franco-queer de l'Ouest note que c'est important, lors de la première visite, que les personnes trans et queer se sentent à l'aise et capables de se confier aux médecins sans être jugés. Puis ça peut avoir un effet sur l'affirmation de genre elle-même et sur le suivi médical à long terme. Donc, on a créé cette formation-là qui donne une certification officielle pour ceux qui la suivent.
La francophonie cherche sa place dans le développement des territoires du Nord-Ouest.
Les francophones sont souvent oubliés quand les politiciens établissent des politiques publiques ou des règlements. Puis les organismes francophones des territoires du Nord-Ouest ont décidé de peu prendre des choses en main et de rencontrer les députés des territoires. Comme le dit la Fédération franco-ténoise, eux-mêmes, ils ont plus l'habitude de travailler avec les ministres et les fonctionnaires et parfois, un peu aussi de la faute de la francophonie, on oublie de parler aux députés eux-mêmes. L'objectif de la rencontre, c'était pas de faire des demandes, c'était juste d'expliquer aux députés c'était quoi les défis rencontrés par la francophonie, puis des projets qui étaient en cours. On s'attend entre autres à une augmentation de l'immigration francophone dans les territoires du Nord-Ouest, pour donc prévoir la mise en place de mesures adéquates pour l'accueil. Par exemple, les deux écoles les plus importantes du territoire sont déjà à pleine capacité, donc peut-être faudra en construire d'autres ou les agrandir. Il faudra aussi plus de place pour les immigrants dans la vie communautaire, culturelle, puis un meilleur accès à l'information en français. La rencontre a été positive. Les députés ont appris plein de choses qui sont dites et que, dont des projets dont ils ignoraient l'existence.
Et on termine avec des nouvelles concernant l'Université de Sudbury. Ce sont des nouvelles positives.
Mm-hmm. Oui, parce que je vous le mentionne rapidement, parce qu'on en a parlé souvent, on l'attend depuis longtemps, mais le nom de l'Université de Sudbury apparaît enfin dans le budget du gouvernement de l'Ontario, qui a été dévoilé il y a quelques semaines. Avec l'aide du fédéral, l'Ontario va fournir 21,6 millions de dollars à l'Université de Sudbury au cours des trois prochaines années. Je vous rappelle que l'Université avait subi un refus en 2023 pour du financement par la province. Après ça, ils ont conclu un partenariat avec l'Université d'Ottawa pour améliorer ses chances, commencer à offrir peut-être des services, trouver une façon d'avancer. Puis d'ailleurs, le financement qui est dans le budget ne fait pas de l'Université de Sudbury un établissement indépendant à part entière parce que le financement passe par l'Université d'Ottawa. Malgré tout, le recteur Serge Méville dit que c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre à l'Université d'atteindre une certaine stabilité pendant trois ans, de voir plus clair et de prévoir et de planifier l'éducation postsecondaire en français dans le nord de l'Ontario.
Nouvelle que vous avez trouvée dans le droit. Julien Caillouette, un grand merci.
Merci.
À la semaine prochaine. Merci d'écouter Canal M, la radio de Vues et Voix. Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11h. À venir, une chanson d'Albin de la Simone et puis une conversation avec la cinéaste André-Lyne Beauparlant à propos de son plus récent film.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je suis père et fils et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains roulement habille. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines.
Albin de la Simone, les 100 prochaines années.
André-Lyne Beauparlant, cinéaste, artiste visuel, est avec nous en studio. Bonjour, André-Lyne.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec nous pour nous présenter le long-métrage documentaire que vous signez, Mon amour, c'est pour le restant de mes jours et pour se mettre dans l'ambiance. On va écouter la bande-annonce.
OK, parfait.
OK.
As-tu fait la bulle avant? Hein? T'as ce niveau, ça, ça doit...
Ça fait plus de 20 ans que je fais des films sur ma famille, sur les gens autour de moi. Il y en a un que j'ai pas encore filmé. Mon chum, mon amoureux.
Je suis ici pour parler de moi, avec l'aide du film que vous allez voir.
Tu es Robert Morin, puis je suis ici pour parler de toi, avec l'aide du film que vous allez voir.
C'est un gars qui s'exprime avec son Kodak. Avec la caméra, il réussit quand même à faire passer ce qu'il ressent, tu sais.
J'ai envie que tu me parles de ton cinéma, car j'avoue qu'il y a encore une partie de toi qui m'échappe.
Moi, l'art qui me parle, c'est l'art qui me dérange. Hein, t'sais.
Peut-être que de faire un film, ça va m'aider à mieux te comprendre.
Ma santé mentale, à partir d'un certain moment donné, ça a été m'évader à faire des vues de façon compulsive. Là. Quand t'es dépressif puis tu trouves une porte de sortie, là, tu t'y accroches.
Je pensais qu'on allait parler de nous, que les sujets que l'on aborde peu dans la vie, soudainement, avec une caméra, on allait en parler.
Je suis pas sûr si Spielberg avait ce projet-là en tête, si ça se passerait comme ça.
J'oublie à chaque fois combien c'est complexe de faire un film avec ceux qu'on aime.
C'est pas tellement que j'ai besoin de parler de moi, là. Je le fais pour toi. C'est un cadeau. Prends ça comme un cadeau.
Un cadeau pour vous, mais un cadeau pour nous aussi. J'ai vu ce film qui m'a profondément touchée. Mon amour, c'est pour le restant de mes jours qui prendra l'affiche vendredi le 10 avril. Andréline Beauparlant, c'est un projet qui mijotait depuis longtemps dans votre cœur, dans votre tête?
Oui, et en même temps, rapidement, dans le sens que c'est venu rapidement. J'ai eu envie, j'ai eu besoin de faire ce film-là. Donc, je l'ai écrit assez rapidement, puis j'ai commencé à tourner Robert puis à suivre Robert pendant qu'il faisait son film, justement, Festin boréal.
Robert, qui est votre conjoint depuis quoi, une trentaine d'années?
Oui.
Est-ce qu'il a dit oui tout de suite?
Oui, il a dit oui tout de suite parce que c'est pas que ça lui plaisait tant que ça, mais il savait qu'il pouvait pas m'empêcher. que de toute façon, j'allais le faire. Donc,
ah oui? Toute façon, vous alliez le faire?
Bien, je pensais que de toute façon, il allait dire oui et de toute façon, j'allais le faire. On n'avait comme pas le choix, je dirais. Je sais pas.
Ah non, pourquoi?
Là. Je sais pas. On était dans une crise d'amour. Ça a été le déclencheur de mon film aussi, la crise. T'sais, je savais pas ce qui allait nous arriver. On était en train de faire son film, Festin boréal. Je sais pas, ça s'est imposé, je dirais.
Mm-hmm.
Ouais.
Alors, il y a un tournage, dans le tournage, une mise en abîme, parce qu'on le voit tourner Festin boréal et toutes les difficultés qu'il va rencontrer. Mm-hmm. Et on sait que le film est sorti à un moment donné. Là.
Ouais.
Il y a quand même de l'espoir.
Ouais.
Et c'est un film qui mêle archives personnelles, extraits de films, moments du quotidien. Comment vous avez construit la narration?
Je voulais raconter Robert avec son cinéma aussi. J'avais pas envie d'avoir des entrevues sur des gens qui parlent de Robert, de son cinéma, des experts. C'est pas ça mon documentaire.
C'est lui qui vous intéressait.
C'est lui qui m'intéressait et c'était à partir de son œuvre que je voulais parler de lui. Puis je voulais que le film lui ressemble. Je voulais qu'on sente sa poésie. Je voulais qu'on sente sa violence quelque part. Je voulais qu'on sente sa façon de faire des films aussi. Donc, c'était
on
ça
sent
mon
tout
idée.
Ça. Ouais. Ouais. Vous avez aussi fait appel à un monteur pour...
Oui, j'ai travaillé avec Stéphane Lafleur, un réalisateur que j'aime beaucoup, monteur que j'aime beaucoup, avec qui je n'avais jamais travaillé comme monteur, mais j'ai fait tous les films de Stéphane en direction artistique, donc c'est quelqu'un que je connais bien.
Musicien, chanteur avec podcast aussi.
Et puis, donc, on a une belle collaboration, donc je dirais que ça a été facile, notre travail, notre collaboration. Très facile.
Et le film est vraiment honnête. Robert Morin nous ouvre son journal intime, si je peux dire, parce qu'il a vécu quand même pas mal d'épreuves, beaucoup de deuils liés à des morts tragiques. Et vous, Andréline Beauparlant, vous ouvrez aussi votre cœur sur votre histoire d'amour. D'ailleurs, vous en parlez, vous disiez crise d'amour. Avec Robert Morin. Est-ce que c'était voulu dès le départ? Où ce ton-là, confidentiel, toutes ces confidences-là, ça s'est développé au fil du tournage?
Non, c'était déjà là. C'est ce que je voulais, mais on sait jamais si ça va se passer, si ça va arriver, mais c'est ce que je voulais. C'est l'histoire de Robert que je connaissais. Et puis moi, j'avais envie de raconter Robert. Robert a eu énormément de drames dans sa vie. Je pense que ça a influencé aussi son cinéma, sa façon d'être, sa façon d'aimer même, comme je dis dans le film. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est important. Je dis, j'ai rencontré Robert, il est arrivé chez moi, puis le lendemain, je dis, dans la nuit, on a passé au feu. On a tout perdu. T'sais, notre vie a commencé comme ça. Même notre vie à deux a commencé par un drame, quelque chose qui finit bien, mais qui est quand même un drame, qui est violent. C'est très violent comme début de vie. On a tout perdu. On a tout perdu ensemble, t'sais, puis on a recommencé. C'est ça. Donc, j'avais besoin de raconter Robert comme ça. Puis tout ça mélangé à sa vie, à son cinéma et à notre histoire d'amour et à notre façon de faire du cinéma ensemble. C'est une grande collaboration, quand même 30 ans. 30 ans, mais avec aussi, on a une assez grande différence d'âge, Robert et moi. On a une façon de faire du cinéma différemment. Moi, je fais que du documentaire, Robert fait de la fiction. On est très différents en même temps, puis en même temps, on se retrouve, puis on se rejoint dans notre façon de faire, je pense.
Puis est-ce que ça a été compliqué de trouver l'équilibre entre votre propre voix, parce que vous êtes impliquée dans le film, non à titre d'amoureuse, mais de réalisatrice aussi, mais on vous entend parler, vous exprimer, et on entend Robert Morin qui est comme la vedette, entre guillemets, de ce film.
Ben oui, c'est le héros de mon film.
Ouais.
C'est le seul, je dis, à part les extraits, les acteurs des extraits de film. Si c'était difficile, maintenant, avec le recul, j'ai envie de dire non, mais oui, c'est tout le temps difficile. Faire un film, c'était difficile de trouver le ton juste de la narration aussi, quand même. Ouais. Là,
parce que vous allez loin, mais il y a une pudeur
qui est pas explorée. Puis en même temps, en restant pudique, parce que dans mon film, je dis beaucoup de choses, mais en même temps, quelque part, l'essentiel, on le garde pour soi, tu sais, je veux dire, je donne pas de détails, mais bon, une crise d'amour, qui a pas vécu une crise d'amour, tu sais, mais ma narration est faite avec tout mon cœur, en fait, là, mais sans aller trop loin.
Oui. Et bien, on sent que vous l'aimez, évidemment, et vous parlez de ses défauts, de ses grands défauts, de ses grandes qualités.
Ouais.
Il y a une franchise, une sincérité.
Ouais.
Même si vous ne dites pas tout, on est capable de deviner beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, puis je parle du fait que j'ai tout aimé de Robert, j'ai tout pris, tu sais, même par moments en m'oubliant, tu sais. C'est ça aussi une relation de couple, c'est ça aussi une relation...
De prendre sa place, de trouver sa place.
Comme femme, comme cinéaste aussi. Tu sais,
oui.
Je pense que, je veux dire, c'est un film, selon moi, féministe, quelque part, où est-ce que j'arrive à raconter Robert à ma façon aussi. Puis de prendre la caméra face à Robert, c'est pas si simple que ça. Tu sais, d'assumer le fait que mon film allait avoir tous ces défauts-là devant un réalisateur qui est un peu...
exigeant.
Qui est exigeant, puis qui est très, très apprécié, Robert. C'est quand même quelqu'un de bien installé dans le cinéma. Là. C'est quelqu'un qui a une grande histoire avec...
Je pense que la première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'époque où je faisais de la radio en Abitibi. Il avait participé au Festival international du cinéma en Abitibi.
Ouais.
Là, je me souviens pas exactement du titre, mais c'était le festival du film de là-bas. Et il n'est pas nécessairement facile d'approche, mais c'est quelqu'un qui joue à rien, je trouve.
Oui, oui. Puis Robert aime pas... je crois pas qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui aurait pu faire ce film-là. Robert aurait jamais accepté de se faire filmer comme ça, dans son intimité, puis même...
Non, c'est surprenant pour nous qui le connaissent... Bon, on connaît pas comme vous, là, mais qui connaît ses films, sa personnalité aussi, là.
Je pense que c'est par amour, tu sais. J'ose dire, je veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il a accepté parce que c'était moi.
Ouais.
Sinon, ça aurait été impossible, tu sais.
Vous avez travaillé beaucoup en tant que conceptrice, directrice artistique
sur tous ses films. Robert a travaillé sur tous mes films, j'ai travaillé sur tous ses films, tu sais, donc, mais c'est très différent, nos films, mais oui.
Mm-hmm. Et est-ce que vous avez un film préféré de Robert Morin?
Ben, j'ai envie de dire Festin boréal, peut-être parce que c'est le dernier.
Son dernier,
tu sais, puis c'est parce que... Peut-être parce que je faisais aussi mon film, mais je pense que c'est un grand film, Festin boréal, mais j'en ai pas de préféré, ça change. Tu sais, Le voleur vit en enfer, c'est exceptionnel. Yes, sir, madame, c'est exceptionnel. Tu sais, je veux dire, ça fluctue, ça dépend.
Mm-hmm. Problème d'infiltration, un de ses
plus
populaires. Requiem pour un beau sans cœur avec Gilles
d'Or. Oui. Non, il y en a beaucoup, en fait.
Ouais.
Tu sais. Là, j'ai plus dans mon cœur Festin parce que c'est le dernier, je pense. Puis je faisais mon film pendant qu'on faisait Festin, donc ça, il y a quelque chose là-dedans d'important dans nos, comme nos œuvres qui se croisent aussi, notre vie qui se croise, notre relation, notre amour, notre crise d'amour aussi en même temps, tu sais. Quand je faisais le film, je ne savais pas si on allait être ensemble jusqu'à la fin de mon film, j'avais aucune idée, en fait.
J'allais dire, c'est un punch, on ne dira pas. Et il y a aussi cet amour de la nature qui vous rend, qui vous rend complice aussi.
Oui.
Et il parle aussi de son... de sa soif de silence, le silence qui l'apaise. Et on en trouve du silence dans votre film.
Oui, je pense qu'on a laissé les bons silences pour qu'on entende Robert, mais sans mots, je dirais. Tu sais, on l'a laissé respirer, je pense. Puis je pense que les silences en disent long par moment.
Il dit que ça calme sa dépression permanente.
Oui.
C'est fort, ça.
Oui, c'est fort.
Ouais. Et il parle aussi du fait qu'il ait peur. Il dit « Je suis peureux, mais pas avec un Kodak dans les mains. »
Oui, il dit « J'ai peur de tout, mais pas avec un Kodak dans les mains. Ouais. » Puis c'est vrai, il le dit sincèrement, puis c'est vrai. C'est complètement vrai, Robert. C'est comme s'il changeait de personnalité avec un Kodak dans les mains, comme il dit.
Le cinéma, ça prend énormément de place dans votre vie.
Oui, ça prend beaucoup de place. Puis en même temps, à travers ça, on fait plein d'autres affaires, là, tu sais. Mais oui, ça prend de la place. Oui, mais une belle place, je dirais. Ouais. Il me semble qu'elle est saine, cette place-là.
Êtes-vous des cinéphiles?
Non, je lis plus que je vois des films, je dirais. J'ai pas envie de me vanter de tout ça, mais ouais. Ça me repose plus de lire que de voir des films.
Et votre parcours, comme je le disais, est fait de films qui sont très personnels, liés à votre famille. Je me souviens d'avoir vu Trois princesses pour Roland, Le petit Jésus, Pinocchio aussi.
Oui, oui.
Comment ce film nouveau sur Robert Morin s'inscrit dans votre démarche artistique?
Je pense qu'il est complètement... Je pense qu'il est comme une suite un peu logique. Mon amoureux, je ne l'avais jamais filmé. Peut-être que je me rapproche un peu de moi. Tu sais, après mes parents, ma cousine, mon frère... je sais pas, j'ai eu besoin. Puis c'est pas quelque chose que je décide tant que ça. C'est comme des événements dans la vie qui font que le sujet s'impose. C'est là, la crise d'amour s'est imposée pendant qu'on faisait le film Festin. Donc, ça s'est imposé. Puis là, ben, il me semble que c'est une suite logique, mais je suis pas super bonne pour analyser puis faire une de mes films, de mon propre travail. Mais en tout cas, pour moi, c'est dans mon cœur, en tout cas, c'est très logique, cette suite-là.
Et bon, une fois que le film était monté, prêt à être présenté, est-ce que vous avez eu une sorte de vertige? Comment vous vous sentiez? Parce qu'il a été présenté au Festival du film sur l'art, le FIFA.
Oui, j'ai eu un vertige parce que Robert avait jamais vu le film, puis il l'a vu seulement avec tout le monde dans la salle, avec 800 personnes en même temps.
Ah oui?
Oui. Robert voulait pas le voir avant, il me faisait confiance, puis en même temps, le film était fait, puis on n'avait rien à discuter. Tu sais, c'était mon film de toute façon, donc Robert a vu le film... en salle avec tout le monde en même temps.
Est-ce qu'il s'est levé à la fin comme tout le monde? Il y a eu une ovation.
Il y a eu une ovation. Robert s'est levé, il était très, très ému. Il m'a dit que j'avais fait un très beau film, puis c'était un beau moment, en fait.
Vous dites dans le film que, selon vous, Robert Morin n'est pas reconnu à sa juste valeur.
Ben oui, Robert a fait énormément de films. Je pense qu'il a bousculé beaucoup le cinéma québécois. Il a fait des œuvres majeures, mais... Il est assez peu présent, il me semble, en tout cas. Mais...
Pourquoi, selon vous?
Je sais pas. Ça, je sais pas pourquoi. Mm. Puis en même temps, peut-être que sa place, elle est juste parfaite aussi, mais je sais pas. Il me semble que... Robert a fait plus d'une trentaine de films. Ouais. C'est une grande carrière, quand même. Il y a encore beaucoup, beaucoup de misère à financer ses films, Robert. C'est fou, là. C'est très, très difficile. Probablement que c'est difficile pour... J'en doute pas que c'est difficile pour tout le monde, mais je trouve que c'est particulièrement difficile
pour quelqu'un
qui a
tout un métier, super production derrière lui et devant lui, j'imagine, j'espère bien.
Oui, et avec beaucoup de succès, quand même, Robert. Les films de Robert coûtent presque rien. Je veux dire, au bout de la ligne, finalement... Il y a beaucoup de gens qui voient les films de Robert, tu sais.
Et il y a beaucoup de comédiens et comédiennes qui veulent jouer dans les films de Robert Morin.
Complètement, complètement,
Et vous, André-Lyne, après Mon amour, c'est pour le restant de mes jours, comment vous voyez la suite de votre travail?
Ah ben, j'ai déjà un autre film qui va sortir bientôt, Petit homme, cet automne, un film sur lequel j'ai travaillé pendant 15 ans, qui est presque terminé.
Petit homme.
Oui, Petit homme.
Qui est ce Petit homme?
Petit homme, c'est le fils de Nathalie, ma cousine de Trois princesses pour Roland. Donc, elle a eu un dernier enfant, puis j'ai suivi pendant 15 ans Petit homme. Et puis, je suis présentement en tournage d'un autre... documentaire qui s'appelle « Embarque, on n'ira pas vite, c'est électrique ».
Mais on aura de belles raisons de vous réinviter à notre micro.
Oui.
qui ne connaissiez pas Canal M.
Voilà.
On va continuer de vous avoir dans notre mire. Et j'invite les gens vraiment à aller découvrir Mon amour, c'est pour le restant de mes jours. D'ailleurs, il sera présenté au Beau Bien.
Oui.
Et puis aussi au Cinéma Moderne.
Oui.
Et les gens qui seront dans la salle vont avoir la chance de discuter avec vous. Et puis avec Robert Morin, ça va
vendredi,
se passer au Cinéma Moderne.
Oui, vendredi, samedi, vendredi au Beau Bien avec moi et Robert, on va répondre aux questions. Et samedi au Cinéma Moderne, Robert et moi, on va répondre aux questions.
Bien, bon succès. Si vous voulez connaître plus en profondeur Robert Morin, j'invite les gens à découvrir le long-métrage documentaire d'André-Lyne Beauparlant, Mon amour, c'est pour le restant de mes jours. Beau titre! Ça vous est venu comme ça?
Bien, ça vient d'un titre de film de Robert qui c'est Ma vie, c'est pour le restant de mes jours.
Okay. Beau clin d'œil. Merci.
Merci.
Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when.
Belle voix. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu du Elvis Presley, mais c'est grâce à André-Lyne Beauparlant, parce que c'est une chanson qu'on entend dans son film Mon amour, c'est pour le restant de mes jours. Parlant d'amour, mais je ne sais pas si on peut parler d'amour quand on parle de passion. Oui, certainement. Mais tout ça pour dire que j'ai vu la semaine dernière Passion simple, le récit d'Annie Ernaux, inspiré de sa propre vie, de sa propre passion, qui est présentée au Théâtre de Quatre-Sous dans une mise en scène, une adaptation de Brigitte Hankins. Et sur scène, il y a un personnage, une femme qui est malade d'amour pour un homme marié, qui est incarné par Julie Le Breton. Et cette femme raconte sa passion brûlante avec beaucoup d'aplomb, de sensualité, de lucidité, avec douleur, douleur aussi, on peut comprendre, et un regard clinique souvent. Et cet homme, qu'elle nomme A, prend toute la place dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, qu'il soit présent ou pas, et elle ne fait qu'une chose, elle l'attend. Mais c'est sa décision à elle. Julie Le Breton rend le texte d'Annie Ernaux avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité. Son interprétation est remarquablement juste et la mise en scène de Brigitte Hankins est au service du texte. Alors, on est dans la littérature. Il y en a qui vont peut-être reprocher la froideur du texte, mais on ressent des émotions. À la fin, les larmes étaient montées pour plusieurs, en tout cas. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, on avait les larmes aux yeux autour de moi et moi-même. Et puis, elle est au service aussi du désir qui est inassouvi du personnage. Il n'y a pas de poudre aux yeux dans la mise en scène de Brigitte Hankins, que de la vérité, tout simplement. Et la pièce nous fait réfléchir à ce que la passion amoureuse peut faire vivre, peut nous apporter, nous donner, nous enlever, et à ce qu'elle peut nous apprendre sur nous et sur la vie. Alors, on sort du quatre sous profondément émue. J'ai regardé sur le site du Quatsou, il y a des représentations jusqu'au 2 mai, mais toutes les représentations affichent complet. On se croise les doigts pour qu'il y ait des supplémentaires. Je sors pas mal de ce temps-ci. Vous me le reprochez pas,
ben
Mathieu,
non.
Mais vous me posez la question. Puis, y a-t-il une sortie ce soir? Mais on dirait que de ces temps-ci, ça me fait du bien. J'ai de la difficulté à dire non. Puis, quand le printemps arrive, on dirait qu'on a envie de sortir de sa cabane, même si le printemps sent l'hiver encore. Mais hier, j'ai assisté au spectacle Dubois, biographie symphonique à la Maison symphonique. D'ailleurs, on avait reçu Dina Gilbert, la chef d'orchestre, tellement sympathique, qui dirige les concerts. Excellente Dina Gilbert. Un concert de l'Orchestre symphonique de Montréal, l'OSM, qui nous sert des chansons de Claude Dubois en version instrumentale orchestrée parfaitement par Scott Price. Quel homme intelligent, un musicien qui comprend la musique, qui comprend les chansons. Moi, j'avais peur de m'ennuyer de la voix d'or de Claude Dubois, mais l'enrobage symphonique, l'instrumentation nous donne à entendre les chansons autrement. C'est comme si les instruments prenaient la bonne place, la place de la voix, si on peut le dire, parce que c'est une voix irremplaçable. Mais ça nous fait découvrir les chansons sous un autre jour. On est concentré sur la musique et parmi les chansons, on nous sert En voyage, Le Labrador, Pas question d'aventure, Laisser l'été avoir 15 ans et fidèle, L'espace qui lui reste, Si Dieu existe, Artiste, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est un spectacle en deux parties très généreux. Et oui, Dubois, une très belle voix. Il a aussi composé des musiques magnifiques et c'est ce qu'on nous sert, des arrangements magnifiques et qui sont mis de l'avant, ces musiques-là. Ça donne un spectacle réjouissant, je dirais, et apaisant. Et Claude Dubois était là. On l'a pas vu dans la salle, mais il est arrivé sur la scène à la fin. Lui qui a eu des problèmes avec ses cordes vocales tout récemment, mais il semblait enchanté par la proposition. Alors, je vous recommande sincèrement ce beau spectacle qui fait du bien par où il passe, c'est-à-dire dans les oreilles et le cœur. Alors, c'est à la Maison symphonique de Montréal encore ce soir et demain. Ensuite, au Grand Théâtre de Québec, les 30 avril, 1er et 2 mai. À l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, ça c'est un peu plus tard, 24 septembre 2026, et puis à la salle Maurice O'Brady en 2027, soit le 17 février. Passez donc une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Mathieu Tessier. Ici Hélène Denis. J'espère bien vous retrouver demain, déjà jeudi, à compter de 9h30.